Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'histoire du marketing. On verra en fait son évolution ou plutôt ses multiples révolutions. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Frédéric Canevet, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le marketing, je dirais même plutôt de 20 ans. Je suis blogueur sur conseilmarketing.com qui est l'un des 10 blogs marketing les plus vus en France. Je suis également consultant et product manager pour la société Eloquent.com. Si aujourd'hui en fait j'interviens auprès de vous, c'est tout simplement parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Growth Hacking, qui présente en fait les dernières évolutions en matière de marketing. Et là aujourd'hui, je vais justement parler de marketing et pourquoi le marketing, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que c'est exactement. Alors avant de commencer, je vous propose de faire un petit jeu très simple. C'est répondre à une question. Selon vous, combien coûte une bouteille d'eau? Alors cette question, elle est un peu simple. Alors tout simplement, réfléchissez à combien coûterait, selon vous, une bouteille d'eau. Je vous laisse compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, alors vous avez sans doute dû un prix. Je pense que certains d'entre vous ont dit, une bouteille d'eau, moi je l'achète au robinet, donc ça coûte zéro. D'accord, très bien. Si vous l'achetez en bouteille, à ce moment-là, tout simplement, ça vous coûte à peu près dans les 20 centimes. Hein. Là, j'ai vu une bouteille d'eau type cristalline, ça coûte 13 centimes au litre, hein, donc c'est à peu près 13 centimes. Ça, c'est la bouteille que vous prenez pour boire tous les jours à la maison de l'eau. En revanche, si vous invitez des personnes chez vous, je pense que vous allez leur proposer soit de l'eau minérale, vous n'allez pas mettre la bouteille d'eau cristalline de source, vous allez dire je vais vous mettre un peu d'Evian, ou alors vous allez leur proposer tout simplement un peu d'eau pétillante, parce que les gens aiment bien avoir de la Salvetta, du Vattviliere ou toute autre eau Perrier. Et à ce moment-là, en fait, l'eau, vous n'allez pas la payer, comme on a vu précédemment, 10-15 centimes, mais vous allez payer plutôt 50 centimes. La bouteille. Si jamais encore vous avez un autre type de repas, imaginons que ce soit un repas d'anniversaire, un repas de premier de l'an, un repas de Noël, peut-être que vous n'allez pas juste prendre une bouteille d'eau un petit peu classique, vous n'allez pas prendre juste l'eau gazeuse d'Evian, l'eau gazeuse San Pellegrino, etc. Vous allez peut-être prendre une bouteille d'Evian en verre. Et là, une bouteille d'Evian en verre qui sera beaucoup plus jolie, qui aura par exemple un petit design, qui aura une petite couleur un peu originale, parce que c'est l'occasion, c'est la fête. Là, vous allez tout simplement mettre plutôt, on va dire, allez, 3 euros le litre, 2-3 euros le litre d'eau. Si là, je vous dis que maintenant, on n'est plus lors d'un repas de famille, mais justement, vous allez à ce repas de famille, vous prenez le train pour y aller, et là, vous avez une petite soif sur le quai de la gare, vous allez payer votre bouteille d'eau beaucoup plus cher. Vous allez prendre une demi-bouteille d'eau sur le quai de la gare, dans un distributeur, et là, ça va vous coûter, allez, on va dire 2,50 euros le demi-litre d'eau. Donc quelque part, vous allez accepter, c'est le terme qui est important, vous allez accepter de payer plus cher votre litre d'eau, tout simplement parce que le contexte fait que vous n'avez pas le choix et que de toute façon vous avez soif et que le distributeur est là et vous n'allez pas sortir de la gare, vous n'allez pas faire des kilomètres et des kilomètres pour acheter cette bouteille d'eau. Vous êtes prêt à payer plus cher pour ce confort. Et puis, imaginons que maintenant, vous êtes au restaurant, finalement, vous n'allez pas dîner chez des amis, ou déjeuner chez des amis, vous allez par exemple au Phuket's Hôtel Barrière au Majestic, hein, très bon restaurant, on voit 9 sur 10 en note, là, vous allez sans problème payer, on va dire, allez, 12 euros la bouteille d'eau, parce que vous n'avez pas demandé une carafe d'eau, parce que c'est un événement spécial. Donc, sans problème, vous allez payer 12 euros votre bouteille d'eau, que finalement, au quotidien, vous ne payez que 20 centimes. Selon le contexte, selon le moment, selon l'occasion, vous acceptez de payer plus cher la même chose. Et si vous êtes dans un contexte encore plus délicat, imaginons que vous soyez en plein milieu du désert et en mourant de soif, à ce moment-là, votre bouteille d'eau, vous serez prêt à la payer tout l'or de la terre. En fait, tout cela, ça vous évoque un petit peu ce qu'est le marketing. Le marketing a pour objectif de maximiser la valeur d'un produit ou d'un service pour tout simplement le vendre à une cible qui a un besoin. Je vous ai mis en illustration un exemple avec les publicités I'm a Mac, I'm a PC qui ont été faites par Apple. Et tout simplement, on voit bien en fait que c'est pas juste le fonctionnel, puisqu'en fait au niveau fonctionnel, souvent un Mac en termes de composants, en termes d'OS, est très proche d'un PC. Mais dedans, vous avez en fait de l'émotion, vous avez de la valeur, vous avez un look, vous avez une philosophie, qui fait que finalement, vous êtes prêt à payer plus cher pour un Mac que pour un PC. Tout simplement parce que c'est un Mac, parce que c'est l'image, parce que vous êtes graphiste, parce que vous êtes dans le marketing, parce que le Mac représente des valeurs, parce que vous ne voulez pas avoir de plantage, donc vous êtes prêt à payer plus cher. Et en fait, tout ça, c'est justement du marketing. Alors, je vous ai mis une petite définition simple. Qu'est-ce que le marketing? En fait, j'aime bien la définition qui a été donnée par e-marketing.fr qui est, c'est l'analyse des besoins des consommateurs et de l'ensemble des moyens d'action utilisés par les organisations pour influencer leur comportement. Donc on part bien du besoin des consommateurs. Et ensuite, face à ces besoins, on va créer de la valeur perçue pour les clients pour adapter l'offre commerciale. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les coûts de production. On va vraiment se dire, voilà, quelle cible a un problème. Et tout simplement, après, grâce à ça, on va pouvoir adapter un prix. Ça, c'est la définition un petit peu traditionnelle. C'est ce qui correspond au marketing que l'on voit un peu partout, hein. C'est essayer de mieux valoriser les produits, mieux les vendre. Moi, au cours de cette présentation, je vais vous montrer que le marketing, c'est autre chose. Le marketing, en fait, c'est une des fonctions les plus essentielles et cruciales de l'entreprise, parce que le marketing doit assurer le futur de l'entreprise. Et je vous montrerai justement au cours de cette présentation en quoi le marketing à chaque fois a su se changer, a su évoluer, a su faire sa révolution pour s'adapter à notre environnement économique. Pour cela, je vais vous illustrer d'une manière très simple, hein. Je vous mets toujours, j'aime bien cette citation de Henry Ford qui dit que si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voudraient, ils m'auraient demandé des chevaux plus rapides et non pas des voitures. Parce qu'en fait, le marketing, c'est pas juste répondre à un besoin, mais c'est également l'anticiper. Si on fait que répondre à ce que veulent les clients de maintenant, eh ben on sera à un moment donné en déphasage, parce que les besoins des clients évoluent sans cesse, l'environnement économique évolue sans cesse, et donc il faut non seulement penser aux besoins des clients de maintenant, mais également anticiper. En revanche, il ne faut pas avoir ni raison trop tôt, ni raison trop tard. Si vous avez raison trop tôt, c'est l'échec, votre produit n'est pas mature, vous passez beaucoup de temps à évangéliser sur un service que les gens ne veulent pas. Et un très bon exemple que je vous ai mis en illustration, c'est Bill Gates. Bill Gates et Microsoft ont inventé en 2002 la tablette PC. C'était la première tablette, c'était un écran avec un stylet, c'était un produit qui ressemblait furieusement avec un iPad, et pourtant ça a été un échec total. En 2010, 8 ans plus tard, Steve Jobs lance l'iPad et à ce moment-là, ça a été la folie. C'était une révolution. Et vous voyez chez vous, de plus en plus de personnes n'utilisent plus un PC, mais utilisent un iPad parce que c'est un moyen beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique d'accéder à l'informatique. Et puis en fait, les gens n'ont pas besoin d'un clavier évolué, n'ont pas besoin d'un grand écran pour consulter des emails ou aller sur les médias sociaux. C'était le bon moment, le bon timing. Et à la fin, je vous mets ici Steve Ballmer de Microsoft, qui 2 ans plus tard lance la Surface, la tablette de Microsoft. Et en fait, tout le monde dit, mais non, ils sont en train de copier Apple en moins bien, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il ne faut pas non plus avoir raison trop tard, et il faut savoir bien communiquer sur ce que l'on fait. Si Microsoft et Steve Ballmer avait à l'époque indiqué, ouais, mais regardez, on a inventé en premier l'iPad, c'est l'iPad qui nous a copié, ça aurait été différent. Ils ont sorti un produit qui était d'ailleurs assez similaire à l'iPad, qui apportait assez peu de valeur ajoutée, et c'est pour ça qu'on les a traités de copieurs et de voleurs. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, le marketing est là pour anticiper les besoins, mais il faut penser au bon timing. Alors, je vais vous poser une seconde question, c'est à votre avis, de quand datent les premiers témoignages, les premières sources de marketing? Alors, j'ai mis en petite illustration une idée, hein, je vous ai mis un grec, même si ça date pas vraiment de l'époque grecque. À votre avis, de quand datent les premières traces de marketing dans notre civilisation moderne? Attention, hein, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, c'est très simple. Moi, j'ai daté en fait, et les gens datent de manière générale, les débuts du marketing à l'époque romaine, puisqu'en fait, c'est le début un petit peu de l'industrialisation. On n'est plus dans l'artisanat, on n'est plus dans le one-to-one, mais on commence vraiment à avoir je dirais pas des usines, mais presque, hein, on fabrique en série un certain nombre de choses. Et les Romains ont été les premiers à le faire. Et par exemple, les amphores, avec une taille, une forme particulière, ont été les premiers packaging, véritablement, les packaging commerciaux. Un peu comme maintenant vous avez les bouteilles de Bordeaux, les bouteilles de Bourgogne, les bouteilles de Champagne. Et bien à l'époque, ce n'était pas des bouteilles, c'était des amphores. D'ailleurs, les premières publicités qu'on a vues pour des marques, en fait, hein, c'est également été retrouvé à Pompéi avec le Garum Scorus, qui en fait tout simplement, le garum c'était un condiment, hein, on dirait pas que c'est l'équivalent de la moutarde, mais c'est un petit peu l'équivalent de la moutarde chez les Romains, ils étaient extrêmement friands de ça. Et donc en fait, tout simplement, il y a eu cette publicité qui était pour le Garum Scorus qu'on a retrouvé à Pompéi, donc une des premières publicités pour une marque qu'on a vue dans l'histoire. Donc ça, c'était les origines du marketing, hein, les premières traces. Je vous propose maintenant de faire un bond en avant de quasiment 1400 ans, 1500 ans, et on va passer à une étape clé qui est Gutenberg. Alors pourquoi Gutenberg? Tout simplement parce que Gutenberg a inventé donc l'impression en série, et donc ça a été une véritable révolution parce qu'on est désormais capable de faire des prospectus, on est capable de diffuser des idées simplement, on est capable de faire de la publicité. Et donc les premiers usages ont été pas très marketing, mais je dirais qu'un des premiers publicitaires a été Luther, hein, qui a utilisé justement l'impression pour aller placarder sur les portes de l'église près de chez lui, placarder en fait les tables de la loi entre guillemets de la philosophie protestante. Et c'est grâce à à cette impression, grâce à la diffusion du papier, grâce à la diffusion de ce document que la foi protestante s'est diffusée dans toute l'Europe. Donc en fait, c'est vraiment le début pour moi de la publicité en tant que telle, de la publicité écrite. Alors, on va faire encore un grand pas en avant. On était en 1500. Là, on va passer directement en 1900, 500 ans plus tard. Et là, en fait, on arrive tout simplement à l'âge d'or de la réclame. La réclame, c'est entre guillemets l'ancêtre du marketing. L'ancêtre du marketing avec ici une illustration de Ripollin. On est vraiment dans une publicité qui est très artistique, hein. On a vraiment une réclame qui cherche à séduire un petit nombre de privilégiés parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter les produits. C'est une économie où une majorité des gens n'ont pas forcément beaucoup d'argent. C'est une économie où les gens ont de quoi vivre. Et puis il y a une petite classe de personnes un petit peu aisées. Et donc tout simplement, là, les publicités donc sont assez classiques. Hein. Par exemple, ici, la vache qui rit, supérieure en poids et en qualité. La vache qui rit est la crème des gruyères de luxe. Donc, en fait, vous voyez un petit peu la philosophie. Ou la poudre pulvérisée Poulain pour le 5 o'clock et le déjeuner du matin. Rien n'égale une tasse de chocolat pulvérisé Poulain. Donc on est vraiment qualité inimitable. Donc on est vraiment dans le début de la réclame et on est vraiment sur une petite cible et on cherche un petit peu à faire rêver ces personnes-là. Mais ici à cette époque-là aussi c'est le début du marketing un petit peu comme on le voit maintenant. Ce que l'on fait désormais dans les années 2000, on le faisait déjà dans les années 1900. Par exemple, je vous donnerai l'anecdote du Tour de France. Si vous ne le savez pas, en fait, le Tour de France a pour origine en fait du marketing, puisqu'en fait c'était à l'époque le magazine Loto, enfin le journal, hein, c'était pas un magazine d'ailleurs, le journal Loto, qui tout simplement avait comme rival le journal Le Vélo, et le journal Loto voulait s'accaparer la part de marché du cyclisme. Et donc ils avaient un petit peu de mal à se faire connaître par rapport à ce magazine qui était dédié, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc organisé le Tour de France avec des chroniques, avec une course, etc., etc. Et ils ont créé un événement autour du Tour de France et autour de leur magazine pour vendre en fait du journal Loto. Et finalement ça a fonctionné. Le magazine Le Vélo s'est effondré. Le magazine Loto est devenu Loto et Le Vélo est devenu le numéro 1 grâce au Tour de France. Donc une organisation qui a été faite au départ pour faire la promotion d'un journal papier. Juste pour ça, pour créer du contenu, créer de l'événement. J'aime bien également présenter un autre exemple très clair de content marketing, de marketing par le contenu, avant même les blogs et YouTube. Et ben tout simplement, vous aviez le guide Michelin qui a été inventé par Michelin pour faire la promotion des pneus. C'est en fait tout simplement inciter les gens à partir en voyage, les gens à faire du tourisme avec leur voiture, en mettant en avant tous les bons plans, les bons restaurants, etc., etc. Donc en fait, c'est une manière indirecte de faire de la promotion de ces produits. Et là maintenant, bah, c'est exactement la même chose, hein. On est exactement sur les mêmes principes. Si vous avez Red Bull qui fait des organisations de compétition d'avion, qui veut sauter un homme depuis l'espace, encore une fois, c'est pour se faire connaître, c'est pour donner une image. Si moi je tiens un blog conseil marketing sur le marketing, c'est tout simplement parce que j'ai des choses derrière à vendre. Je publie du contenu intéressant, je publie de la valeur ajoutée, je donne en fait, pour ensuite, je donne des informations à valeur, hein, pour ensuite recevoir et ensuite avoir une relation commerciale. Donc on peut voir que ce début du marketing inventé dans les années 1900 reste toujours vrai de nos jours. Alors on va avancer un petit peu encore une fois dans le temps. On se passe, allez, 45 ans plus tard. Et là, en fait, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les boys sont de retour et en fait, ils inventent le marketing. C'est là, en fait, que véritablement le terme marketing est inventé. Puisqu'au départ, on ne parlera pas de marketing, mais on parlera de marketing. C'est-à-dire mettre sur le marché. C'est ça qui est important de retenir, c'est qu'au début, le marketing n'a qu'un seul objectif, aider les personnes à mettre des produits sur le marché. Tout simplement parce que les personnes qui sont allées à la guerre vont refaire en fait ce qu'ils ont appris et vont appliquer ce qu'ils ont appris en termes de guerre, en termes de stratégie, en termes d'organisation dans le monde de l'entreprise. C'est pour cela que lorsque on va tout simplement parler de marketing, on aura souvent des termes guerriers. C'est-à-dire qu'on va parler de campagne marketing, on parlera de chef de produit, on parlera de conquérir de marché, on parlera de force de vente, on parlera de cible, on parlera de stratégie marketing, on parlera d'attaquer un concurrent, on parlera de positionnement, on parlera de briefing marketing, on parlera de guérilla marketing, tout simplement parce qu'à l'origine, les gens qui ont inventé le marketing venaient de l'armée. Ils ont juste repris l'organisation, la structure, la méthodologie pour lancer non pas une guerre, mais lancer une guerre commerciale. L'objectif à l'époque du marketing, c'est tout simplement d'écouler des produits qui arrivent en masse sur le marché. Hein. C'est les débuts de la consommation de masse. Hein. Et donc on va écouler des bouteilles de Coca-Cola, des voitures, de la soupe Campbell. Donc en fait, on a un marché qui est naissant, un marché de masse. Et en fait, on va essayer de faire en sorte que la mise sur le marché des produits soit la plus efficace possible. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'au début, le marketing n'est rien qu'une checklist. On est là pour vendre des produits sur un marché, il faut rien oublier. Donc on a en fait le mix marketing des 4P, ce qu'on appelle au départ les 4P, hein, le produit. Alors qu'est-ce qu'on veut comme fonction? Qu'est-ce qu'on veut comme service? Qu'est-ce qu'on veut comme innovation? Ensuite la promotion. Comment en fait on va le vendre? Alors à l'époque il n'y avait pas les médias sociaux, mais c'est tout simplement est-ce qu'on va le vendre via de la publicité, via des magazines, via des journaux, via de la télé, via de la PLV, etc., etc. Quel est le dispositif de promotion? Quel prix on va mettre? Est-ce que c'est du bas de gamme, haut de gamme, moyenne gamme? Donc le business model, le rapport qualité-prix, et ensuite la distribution, place. Sur quel circuit de distribution on va vendre ces produits? Tout simplement. Est-ce qu'on va le vendre par des distributeurs, de la grande surface, etc., etc. Donc à cette époque-là, le marketing est vraiment très simple. C'est pour ça que pendant de très longues années, le marketing était un service qui était relativement mineur dans les entreprises, puisqu'il s'agissait uniquement de commercialiser un produit. Donc on disait, tiens, il y a ça à vendre, vas-y, mets tout ce qu'il faut pour que ça soit produit sur le marché. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un petit peu oublié des choses. Parce que certes, c'est bien de prévoir du produit, de la promotion, de la distribution et du prix, mais parfois on oublie un petit peu qu'il y avait aussi des processus, c'est-à-dire que l'administratif, c'est-à-dire qu'on créait des gammes de produits, il fallait diffuser des informations distributeurs, etc., etc. Et puis maintenant, il y a un système d'information, il y a un CRM. Donc il ne faut pas oublier de se dire que bah voilà, ok, d'accord, il y a un produit à lancer, mais il ne faut pas oublier toute la logistique derrière. Un petit peu comme dans l'armée, hein. C'est pas tout d'aller faire une attaque. Si on oublie la logistique derrière, ça ne va pas aller. Pareil, on va ajouter un autre P qui sera tout simplement le personnel parce que on se rend compte que finalement on vend au travers de personnes qui sont là pour promouvoir le produit et donc il faut former ces personnes, il faut prévoir le support technique derrière. Donc voilà, le marketing évolue un tout petit peu, on est toujours dans une gamme de philosophie qui est toujours la checklist avec ce qu'il ne faut pas oublier pour lancer un produit. Arrivent les années 60, et là en fait on arrive au début du mass media, tout simplement, avec la possibilité de pouvoir faire de la promotion à très grande échelle sur des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes. C'est un petit peu l'époque de Mad Men, tout simplement, ben, on a des médias de masse qui permettent d'aller toucher les consommateurs. C'est le début de la télévision, c'est la radio, c'est les grands magazines. Donc en fait, il faut tout simplement être présent sur ces canaux de diffusion et il faut se distinguer avec ses concurrents. C'est l'époque où on va essayer d'avoir un maximum de visibilité, qu'on va faire des spots publicitaires, qu'on va matraquer son marché pour gagner en visibilité et surpasser son concurrent et donner envie d'acheter les produits. On est vraiment là-dessus, hein. On a des produits, il faut donner envie d'acheter. C'est l'époque également où on arrive un petit peu aux marques qui se font la guéguerre. C'est le début de la lutte entre Pepsi et Coca, par exemple, hein. Donc en fait, ça va être vraiment quelque chose qui est important. Il y a une masse en fait de consommateurs qui peuvent acheter les produits. Le but, c'est d'aller les convaincre d'acheter mon produit que plutôt que celui des autres. Donc la publicité dans ce cadre-là doit vraiment valoriser le produit. La publicité est optimisée pour dire ok, le produit est mis en avant. Et donc les publicitaires mettent alors tout leur talent pour donner envie. Alors le maître à penser c'est David Ogilvy. Et c'est vrai que là on verra tous les efforts, tous les tests qui sont faits pour convaincre. Ici je vous ai mis un exemple. Alors c'est un exemple moderne avec de l'analyse en fait de l'eye tracking, c'est-à-dire qu'on peut voir où les personnes regardent. Et on voit bien que selon que la personne, une femme, en fait, regarde le produit ou qu'elle nous regarde nous, le résultat est totalement différent. On voit ici que quand la femme regarde le tube de shampoing Sunsilk, tout d'un coup, en fait, ben, nous aussi, on va regarder ce tube de shampoing Sunsilk. Pareil, si le bébé nous regarde nous, on va plutôt s'intéresser au bébé. En revanche, si le bébé regarde le texte qui est écrit, ben nous aussi on va être tenté d'aller regarder le texte qui est écrit. C'est également le début du neuromarketing. Le neuromarketing, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement utiliser la psychologie et les ressorts de notre comportement pour essayer de nous influencer. Et en cela, en fait, il y a plusieurs ouvrages de référence. Un de mes préférés reste Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui a sorti d'ailleurs il y a à peine 6 mois un autre ouvrage qui est la suite en fait de celui-là qui s'appelle Persuasion, pour persuader avant de commander. Et donc en fait le livre Influence et manipulation détecte 5 piliers, enfin 6 piliers, pour convaincre les gens d'acheter des produits. La preuve sociale, c'est-à-dire tout simplement, bah, vous avez quelqu'un qui vous recommande quelque chose. Donc, c'est par exemple, plus de 500 000 consommateurs ont fait confiance à notre produit, ou vous faites partie des millions de consommateurs qui ont choisi tel truc. L'engagement, c'est une personne qui a commencé à faire un processus de décision et qui ne peut pas se déduire et qui ne peut pas en fait revenir en arrière. Un exemple concret dans votre quotidien, c'est une fois que en fait, ben, vous attendez un bus, vous avez attendu un quart d'heure, une demi-heure, et ben en fait vous vous dites oh non, je reste encore 5 minutes, je me suis trop engagé là-dessus, je vais encore attendre 5 minutes de plus ou 10 minutes de plus parce que le bus il va finalement venir. Ben, c'est pareil, la théorie de l'engagement c'est exactement ça, c'est on vous a mis en fait le doigt dans l'engrenage et finalement vous allez automatiquement continuer dans le processus de vente ou d'achat. S'il suffit par exemple qu'on vous dise 3 fois oui dans un argumentateur commercial. Vous êtes d'accord pour ça, monsieur? Oui. Vous êtes d'accord pour ça, monsieur? Ah bah oui. Vous êtes d'accord pour ça? Oui. Et à ce moment-là, bah forcément, quand on vous dira, est-ce que vous êtes d'accord pour payer? Bah oui. Voilà. Donc en fait, c'est le principe de l'engagement. Un autre principe, c'est la réciprocité. Tout simplement, la réciprocité, c'est bah, si on vous fait un cadeau, bah, vous êtes un petit peu redevable et vous allez accepter. La gentillesse, c'est le gentil voleur, hein. C'est la personne qui est sympa, qui est gentille avec vous et qui finalement, bon allez, comme il est sympa, je vais lui prendre son produit. C'est par exemple les gens qui vous font de la dégustation aussi en magasin. C'est l'autorité également qui est forte, hein. On en parlera tout à l'heure, mais vous remarquerez que dans toutes les publicités pour tout ce qui est produits médicaux, dentifrice, bah à chaque fois vous avez une personne qui est en blanc, en blouse blanche, parce que c'est un symbole en fait de l'autorité. Et enfin la rareté, bon, j'en parlerai aussi tout à l'heure, hein. La rareté c'est ce qui fait que les gens vont commander tout de suite et pas hésiter. À chaque fois que ma femme en fait partie, va faire du shopping, chaque fois elle revient avec des vêtements, des chaussures et tout ça, et elle me dit, Mais c'était une super affaire, c'était à moins 60%. Et en fait, c'est ça la rareté, parce qu'en fait, on dit c'est 60%, c'est maintenant, et les soldes s'arrêtent dès demain, donc c'était une super affaire, c'était une super occasion. Voilà. Donc ça, c'est quelques-uns des leviers, et encore, il y en a beaucoup plus. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'influence, en fait, de la preuve sociale, de l'autorité. Et bien, tout simplement, c'est l'époque où les marques utilisent les stars pour tout simplement avoir un petit peu de leur image qui va revenir sur le produit. Quand Coca-Cola dit j'ai embrassé Elvis, c'est pour se dire waouh, Elvis c'est un mec cool, donc moi aussi je prends un Coca parce que je suis un mec cool. Pepsi essayait de faire la même chose avec Michael Jackson, avec Ray Charles et avec Britney Spears. C'est bah voilà, j'adore Britney Spears, c'est Nana qui est super cool, j'adore Michael Jackson, c'est un mec qui est super génial. Et ben lui il boit du Coca, ben moi aussi je bois du Coca. En fait, c'est tous les trucs classiques, hein. Pourquoi en fait vous voyez ces fameuses stars qui sont partout dans les spots publicitaires? Parce que l'objectif en fait c'est que l'image de la star rebondisse en fait sur le produit. Voilà. Certains l'ont compris et l'ont même adapté à leur secteur d'activité dans des secteurs un petit peu détonnants et étonnants. Vous avez par exemple ici, c'est des trafiquants de drogue de Toulouse qui ont compris cette puissance de la marque pour montrer que leur produit était supérieur et meilleur que les autres. Ils ont tout simplement créé un label, Varese Mirail, c'était de la bonne, qu'on peut retrouver au métro Mirail Université à Toulouse. Alors bien entendu, cet exemple est caricatural, mais ça vous montre en fait que la marque permet de se distinguer des autres et de dire voilà, ça c'est de la bonne qualité. Le but c'est que les gens disent moi je veux être assuré, je ne veux pas prendre de risques, et donc j'utilise cette marque-là qui va m'assurer d'avoir un niveau de qualité auquel je m'attends. Je ne prends pas le risque. La marque est là pour diminuer le risque. Alors, malheureusement pour nos dealers de Toulouse, d'avoir mis leur adresse de deal sur le packaging n'est pas une très bonne idée, et vous doutez bien en fait que la police s'est bien occupée d'eux. Alors, là on était en fait dans la partie bon, mix marketing avec la marque, mais on s'est rendu compte aussi que ben, les gens qui achetaient voulaient maintenant une preuve, parce que c'est pas tout de dire qu'on est le meilleur, que avec nous vous allez être rassuré, vous allez avoir en fait une expérience client exceptionnelle, ça va bien se passer. Ils veulent quand même avoir une preuve, parce que si Pepsi dit c'est le meilleur cola, si Coca dit c'est le meilleur cola, mais finalement quel est le meilleur? Et donc en fait tout simplement il faut donner l'information, il faut donner des preuves, des bénéfices et des témoignages. C'est également le moment où en fait tout simplement ben, on va proposer des produits beaucoup plus adaptés. Alors là on fait un petit bond en avant, hein, mais par exemple le Coca Zéro, ben, en fait on va donner le goût de Coca-Cola avec zéro sucre. Donc on donne en fait cette fameuse preuve. Ensuite, en fait, on va essayer d'aller encore plus loin parce qu'en fait, les clients sont devenus de plus en plus difficiles, donc il est difficile de les séduire. Donc, en fait, on va ajouter d'autres choses. On va leur demander de la permission, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste pousser de l'information, mais on va vraiment aller afficher de la publicité qui soit adaptée. On va également leur dire, voilà, si tu fais partie si tu achètes du Coca, par exemple, en fait, on va pouvoir mettre en place une action marketing particulière. On va essayer de se positionner de manière différente également, c'est-à-dire qu'on va pas être juste un Coca, mais on va être le Coca des hommes, le fameux Coca Zéro qu'on a vu tout à l'heure. Dans les années 80 également, on arrive dans l'âge de la provocation. Puisqu'en fait, il faut se distinguer, sortir du lot. Et c'est là que l'on voit les affiches très, très, très provocantes. Hein. On voit par exemple Paul Naref hein, qui fait la promo de son spectacle en montrant ses fesses. On a également un afficheur très célèbre qui dit voilà, le 4 septembre, j'enlève le bas, j'enlève le haut, etc. On tient ses promesses. Ou alors, dans un domaine un peu plus grand public, c'est Serge Gainsbourg qui va brûler un billet de 500 euros pour faire passer un message à la télé. Donc, on est vraiment dans ces années-là. La provocation pour susciter de l'émotion. Parce que tout simplement que l'on dise du mal ou du bien de vous, à partir du moment où on parle de vous, on considère que vous existez. Et donc à ce moment-là, vous allez séduire une partie de la tranche de la population. Tout simplement parce qu'on voit que les marques qui marchent le mieux, c'est des marques qui sont vraiment clivantes. C'est des marques en fait qui sont vraiment très positifs ou les gens qui sont très négatifs. Apple, Samsung sont des marques comme ça très clivantes où on est plutôt pour, on est plutôt contre. Il y en a un qui l'a bien compris, c'est Benetton. Benetton a utilisé pendant des années, des années, des années la provocation comme outil de vente et de marketing. On ne vend pas du tout du pull, on ne vend pas des vêtements, mais ils vendent en fait de la provocation de l'image. Et pendant des années, vous avez des publicités contre le racisme, des publicités sur la tolérance, le sida, etc., etc. Et c'était véritablement leur créneau, donner cette image-là, une image différente autour de Benetton. Alors, une petite question, si vous regardez ici l'image, à votre avis, quelle est la publicité la plus récente? Petite question. Eh bien, si vous regardez attentivement, c'est la publicité en bas à droite, c'est la publicité en fait avec les migrants. Et par contre, cette fois, cette publicité a été pas un échec, mais a suscité un tollé. Pourquoi? Parce qu'en fait, auparavant, Benetton, vous regardez, était plutôt sur la tolérance entre les différentes races, entre guillemets, tolérance sur le sida, etc., etc. Et là, ils sont allés sur un terrain qui est beaucoup plus complexe, qui est celui des migrants, avec pas forcément un message qui est très clair. Et donc là, forcément, autant un message sur la haine, sur l'amour, etc., etc., il y avait un consensus qui était très fort là-dessus. Autant sur le thème des migrants, la solution apportée, les problèmes, etc., étaient plus dans la problématique. Donc en fait, ça a brouillé un petit peu le message, ça a brouillé un petit peu la communication là-dessus. Donc là, en fait, c'est un petit raté qu'ils ont fait au niveau de la communication. Ils auraient plutôt choisi une autre image que celui des migrants en bateau. Ils auraient dû choisir un autre visuel. Alors on fait un petit bond en avant de quelques années, on arrive dans les années 90, et là en fait on va parler du début de la guerre des prix. La guerre des prix avec l'émergence des grandes surfaces, tout simplement parce que la marque en fait perd un petit peu de sa puissance. On disait auparavant, la marque est là pour rassurer, la marque est là pour en fait dire aux clients, t'inquiète pas, ton choix dans le rayon va être très simple, tu fais confiance à la marque et tout simplement tu vas avoir un super produit. Le problème, c'est que maintenant, la marque en fait est un petit peu mise à mal avec des distributeurs qui créent des produits distributeurs en disant, mais attendez, moi c'est la même chose, mais c'est 3 fois moins cher. C'est pareil pour les produits libres en fait de Carrefour, c'est pareil pour les marques repères de Leclerc, c'est pareil pour tous les marques de distributeurs. Donc la marque commence à être mal en point face à ses concurrents. Donc dans ces cas-là, la philosophie est très simple. Ok, on va plus seulement penser au prix, au produit, à l'entreprise, mais on va penser plutôt au client. Et donc en fait, il y a un changement de philosophie du marketing, initié en particulier par La Vache Pourpre, qui est un livre qui a été écrit par Seth Godin, qui a pour objectif de créer des produits remarquables, c'est-à-dire des produits qui sont exceptionnels et qui sont vraiment attendus par les clients. Et pour produire un produit exceptionnel qui va être supérieur aux autres et qui va être attendu par le client, il faut repenser la manière dont on va produire les produits. Donc on passe d'un marketing, on est là pour pousser un produit, donc une checklist, les 4 P, produit, prix, place, promotion, et on va passer à un marketing des 4 C. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre le client au centre, on part de ce que veut le client, de son problématique, de ses besoins, et on va voir comment on va pouvoir apporter un maximum de valeur pour le client. C'est comme lorsqu'on veut en fait vendre un produit cher, il faut se dire mais qu'est-ce que le client est prêt à payer? Quels sont ses problèmes plus importants? Comment je peux ajouter de la valeur supplémentaire? Ensuite, on va pas parler d'un prix, mais on va parler d'un coût global. C'est-à-dire qu'il y aura certes le prix du produit, mais on va également intégrer par exemple le prix pour changer. Par exemple, vous êtes dans une mutuelle. Le prix de changer, c'est pas juste aller passer d'une mutuelle à l'autre. Il y a des papiers, il y a des transferts, des choses comme ça. Donc on va essayer d'intégrer ce coût total de migration, de mise en place, de changement d'habitude dedans. Et on va essayer de faire en sorte que ce changement et ce coût de changement soit vraiment très simple. On va plus travailler sur de la publicité, de la promotion, mais on va travailler sur de la communication. La différence est importante parce qu'on ne va pas juste faire de la promo sur le prix, on va vraiment communiquer sur la marque, la philosophie, le produit, les bénéfices, les témoignages, etc., etc. Ça va donc bien au-delà d'un simple promo du packaging, on va vraiment parler de communication. Et enfin, on ne va pas parler de canal de distribution, on va parler de praticité pour utiliser le produit. C'est-à-dire que comment on va faire pour que le produit soit beaucoup plus simple à utiliser? Est-ce qu'on va par exemple le diffuser sur le web? Est-ce qu'on va le diffuser sur Internet? Et on va penser en globalité à la praticité et à l'usage du produit pour faire en sorte que, une fois que j'ai acheté mon produit, je puisse avoir du support, je puisse avoir de l'aide, je puisse avoir de l'accompagnement, je puisse avoir du self-service, je peux avoir des vidéos d'accompagnement, etc., etc., etc. On est véritablement dans une philosophie qui change. On change d'une produit, enfin, d'une culture orientée produit à une culture orientée client. Et donc, ben, les marques résistent, hein. D'un côté, vous aurez donc ces fameuses marques distributeurs, ces marques low cost, qui eux se concentrent sur ben, l'ancien système, hein, le moins cher, le low cost, Ryanair, les marques Repair, EasyJet, Jiffy, etc., etc., en essayant de réduire les coûts, réduire les marges en allant à l'essentiel. On verra d'ailleurs que ben, si vous voyez Ryanair, vous voyez aussi que ce modèle aussi parfois a des limites, parce que, et on verra à la fin, hein, être le moins cher tout le temps, c'est toujours compliqué, puisque à un moment donné, il y a toujours des gens qui seront moins chers que vous avec une structure de coût moins chère. Donc ça, c'est la partie de choix 1. On va tout simplement se concentrer sur la guerre des prix, essayer de proposer une offre très basique, ou alors on va au contraire orienter ses produits clients, comme on l'a vu juste après, hein, et tout simplement on va sortir des produits originaux. C'est par exemple Guitar Hero. Le jeu vidéo. On va tout simplement proposer aux clients de devenir un guitariste de folie, mais sans savoir jouer de la musique. On va proposer un produit comme Eastpak, avec un look certes sympa, mais surtout un produit, un sac qui est garanti à vie et qui a une image fun, pro, etc., etc. On n'est plus dans le sac basique, dans le sac un petit peu original. On va proposer un iPod qui va être 1000 musiques dans votre poche, et c'est quelque chose qui est entre guillemets une révolution. On part du besoin du client, on parle pas de. On va en fait proposer un baladeur, on va proposer tout simplement d'avoir toute sa librairie, toute sa bibliothèque, toute sa médiathèque en fait dans sa poche. Mais c'est également utiliser le contexte. Là, je vous ai mis un exemple un peu bateau, hein, du Kerry. On va pas juste proposer un petit Kerry en carré, mais on va proposer une pause déjeuner, une pause goûter. On est vraiment différent. On va pas proposer uniquement un produit. On va s'intéresser aux besoins du client. Donc on avance encore de quelques années, une dizaine d'années plus tard, on arrive en fait à l'époque des startups. Donc en fait, ben voilà, vous avez l'entreprise un petit peu corporate, hein, comme vous connaissez sans doute. Voilà, on est dans l'entreprise, voilà, ça tourne, on court, on court, on court, on court. Puis d'un côté, vous avez les startups qui se lancent, pour eux en fait, qui partent de rien du tout et qui doivent en fait essayer d'arriver à grimper une montagne. Donc on arrive dans une situation où il y a une saturation des marchés et en plus, il y a les startups qui arrivent. Mais pour l'instant, les startups sont encore très cloisonné par rapport au monde physique. D'un côté, vous avez véritablement le canal digital, hein, où on va faire des emailing, on va créer un site internet, on va faire un site e-commerce, on est vraiment au début là-dessus. Et vous avez de l'autre côté, hein, vraiment un monde à part avec les canaux traditionnels qui continuent d'utiliser ben, la distribution, les news, etc., etc. Donc pour l'instant, on est vraiment dans des mondes qui sont très étanches, qui sont très séparés. Et le marketing commence à avoir de nouveaux métiers, mais qui sont pour l'instant très cloisonnés. On n'est pas encore dans un multicanal, un omnicanal, c'est-à-dire qu'on ne vend pas par le web, le physique et tout ça. On est vraiment très séparés. Et c'est là qu'apparaissent de nouvelles marques qui basent en fait tout sur le web marketing, donc le marketing sur le web, adapté au web, avec des nouveaux circuits de distribution, de nouvelles marques et des nouveaux moyens de vendre. C'est là qu'arrive Rue du Commerce, Cdiscount, Quel'Coup, Promo Vacances, Let's Buy It. Bref. Tous ces nouveaux acteurs de la nouvelle économie, comme on dit à l'époque, en fait, c'est ces gens qui sont en fait sur le web et qui construisent en fait une nouvelle manière de vendre les produits sur Internet. En attendant, ben, pour les marques qui restent encore dans le domaine en fait physique, hein, classique, ben, ça devient de plus en plus dur parce qu'en fait, ils ont d'un côté ben, leur marché qui est toujours concurrentiel, de l'autre côté, ils commencent à avoir les startups qui prennent un peu de part de marché sur le web. Ben, à ce moment-là, on arrive dans ce qu'on appelle les océans rouges. Un océan rouge, qu'est-ce que c'est? C'est un océan où en fait il y a beaucoup de concurrence, tout le monde se bat pour des parts de marché et c'est extrêmement compliqué parce qu'on a une concurrence qui est très forte. L'objectif est alors d'aller créer son propre marché, de se différencier en créant ce qu'on appelle un océan bleu. Un océan bleu, c'est-à-dire qu'on va créer sa propre piscine où on sera le seul acteur ou un des rares acteurs parce qu'on va proposer une nouvelle offre, on va proposer quelque chose qui est totalement différent et quelque chose en fait qui va véritablement ben, pas avoir d'équivalent sur le marché. C'est la philosophie qui a été sortie par deux écrivains, Chan Kim et puis René Mauborgne, c'est la stratégie Océan Bleu. Donc comment trouver de nouveaux espaces stratégiques concurrentiels où on ne va pas être systématiquement face à face en concurrence par rapport aux autres. Le principe à ce moment-là, le principe du marketing, c'est le corridor stratégique et les racks. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre un marché actuel avec un positionnement de produit. Généralement, vous avez une dizaine de critères pour choisir un produit. qui sont par exemple, là je vous ai mis l'exemple du cirque de soleil. Donc le cirque traditionnel, qu'est-ce qu'il fait? Ben, généralement le prix n'est pas cher, il n'y a pas beaucoup de vedettes, mais il y a quelques clowns et c'est tout. Vous avez des numéros, vous avez en fait la vente de confiserie, vous avez une ou deux pistes qui sont changées de manière intermédiaire. Il y a un petit peu d'amusement et d'humour, il y a un petit peu de démonstration de danger avec des animaux et des choses comme ça. Et en fait, il y a des gens qui disent, ok, moi je veux revoir totalement ce qui existe là parce que je ne pourrais pas survivre en fait dans cet environnement où tout le monde est pareil. Je dois me différencier. Mais qu'est-ce que je fais? Je dois utiliser la matrice ERAC pour éliminer, réduire, ajouter ou créer de nouvelles choses. C'est-à-dire que je vais ajouter des nouvelles choses dans mon, entre guillemets, mix produit, dans mon offre produit, pour tout simplement me différencier de tous les concurrents. Là, par exemple, le Cirque du Soleil, lui, tout simplement, bah, un prix très élevé. Ce n'est pas le prix d'une place de cirque à une dizaine d'euros. Non, on arrivera sur une place vraiment de spectacle. On va vraiment arriver aussi sur de l'émotion, du danger, de l'amusement, de l'humour, mais on va en fait tout simplement créer des spectacles à thème. En fait, il va y avoir une ambiance beaucoup plus raffinée, il va y avoir de la musique, il va y avoir de la danse, il va y avoir une seule piste unique. Ça va être totalement différent. On n'est plus dans le concept du cirque traditionnel, avec des animaux, avec des dompteurs, avec des clowns et des choses comme ça. On est dans quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus raffiné, beaucoup plus artistique. Donc en fait, on va plus être les concurrents du cirque, mais on va être les concurrents, par exemple, des grands spectacles de musique ou les opéras ou les choses comme ça. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est différent. Cette différence également, on peut le retrouver avec Brescola. Hein. On n'est plus concurrent de Coca, mais on est un autre. On propose autre chose. On propose du Coca local à des acteurs locaux avec une image locale, à une production locale. Mais c'est également l'autre exemple que j'aime beaucoup, c'est la Wii. La Wii, en fait, Nintendo a vraiment été pendant de très longues années mis de côté avec la PlayStation qui était vraiment le leader incontesté qui avait vraiment raflé le marché PC et puis PlayStation et la Wii et Nintendo étaient vraiment en retard et c'est là en fait qu'ils ont sorti la Wii en disant ok on va revenir aux fondamentaux on sait très bien que les gens les adultes n'arrivent pas vraiment à utiliser les jeux vidéo parce qu'en fait il faut une console il faut en fait une manette et puis les gens sont pas habitués donc on va reprendre totalement à zéro ça et on va utiliser une console qui va intégrer un gyroscope où les jeux en fait pourront être joués directement avec le corps et plus joués grâce à une manette. Et ça, c'est une véritable révolution. C'est des jeux qui sont beaucoup plus simples, des jeux qui sont familiaux, des jeux qui sont moins violents et des jeux qui sont faciles à utiliser. Il faut une suite de 5 minutes pour utiliser son jeu et c'est quelque chose qu'on fait plutôt en groupe plutôt que jouer tout seul. Donc encore une fois, cette stratégie-là, Océan Bleu, a permis à des marques qui étaient dans un environnement concurrentiel compliqué de s'en sortir. Donc le marketing a cette fois su se réinventer et réinventer encore une fois le concept de positionnement de 4P, de 4C. Un exemple, hein, vous avez Free. Le but en fait quand Free a lancé son offre de téléphonie mobile, c'était pas juste de lancer une offre un petit peu moins chère. C'était faire radicalement différent. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez Orange, SFR, Bouygues, etc., qui avaient des distributeurs physiques, des boutiques, ils faisaient des gros investissements dans les médias, ils faisaient de la subvention mobile, c'est-à-dire que vous étiez obligé d'avoir un mobile, enfin un abonnement qui comprend entre guillemets le prix du mobile, vous aviez un engagement, vous aviez une gamme de produits qui était, vous aviez plusieurs forfaits, 10, 3, 4, 5, 6 forfaits, vous aviez un réseau qui était en propre, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'a fait Free? Ils ont pris le réseau des autres. Ils ont mis un prix qui était bas, ils ont fait du cross-sell par rapport aux gens qui avaient leur accès à Internet, ils ont fait vraiment mobile sans aucune publicité, ils ont tout misé sur le buzz marketing. Ce qui leur permettait, grâce à des coûts de structure beaucoup plus faibles, d'aller gagner de l'argent là-dessus. Et donc ça a vraiment disrupté le marché. On avance de quelques années encore, on arrive en 2005, et là en fait, on arrive véritablement à une maturité des médias sociaux, il y a Web 2.0. Dans les années 2000, le web était vraiment au début. C'était un petit peu, je vais acheter sur Internet, s'adresser un petit peu à des geeks, des gens qui étaient un petit peu en avance. Avec l'émergence des réseaux sociaux, de Twitter, de Facebook, etc., les gens commencent à regarder sur le web. De plus en plus, les gens posent des avis, laissent des avis, les gens créent du contenu. C'est plus les marques qui créent du contenu, ce sont par exemple des blogueurs comme moi qui créent du contenu sur Internet. Avant qu'on voulait savoir ce qui se passe sur un produit, sur une marque, c'est la marque qui poussait de l'information. La communication était totalement maîtrisée. Maintenant, en fait, les internautes, avant d'aller acheter, ils regardent sur Internet et ils voient en fait les avis des autres internautes. Donc on est véritablement dans un changement de paradigme. Avant, c'était l'entreprise qui maîtrisait la communication, qui maîtrisait les canaux, qui avait véritablement la main. Et là, en fait, on arrive à une véritable reprise en main de la relation commerciale par les consommateurs. Cette visibilité, cette action, cette activité des consommateurs sur Internet a également l'intérêt, c'est qu'en fait les marques peuvent exploiter cela. Par exemple, Coca, on en parlait tout à l'heure, a tout simplement sorti son Coca Life à cette époque-là. Tout simplement parce qu'en fait ils ont analysé sur le web ce que disaient les internautes. Et de plus en plus d'internautes sur les forums, sur les groupes, sur Facebook, sur Twitter, parlaient en fait des dangers de l'aspartame dans le Coca Zero et dans les autres marques, et au contraire qu'il y avait en fait peut-être un nouveau moyen avec des molécules plus naturelles, hein, la stevia, d'aller sucrer sa boisson gazeuse avec des choses plus naturelles. Et donc en fait c'est pour ça qu'ils ont sorti Coca Life, tout simplement pour un, surfer sur la vague du bio et surfer sur la vague du naturel, et deux, contrer cet aspect mauvaise réputation de l'aspartame vis-à-vis de la santé. Ce qui montre en fait qu'on arrive maintenant dans un paradigme où en fait la marque en fait doit essayer de séduire le client, séduire le consommateur, puisqu'en fait la marque n'est plus la seule à discuter. Souvent le client il recherche sur Internet et il sait même mieux que le client tout l'étendue des produits. Il a fait de la recherche pendant 3, 4, 5, 6 heures sur Internet, c'est devenu le spécialiste d'un produit avant d'aller appeler. Donc les clients prennent l'avantage et doivent être désormais séduit. Un des moyens justement de se différencier, c'est d'orienter le produit vers le client. Vous avez parlé tout à l'heure du fameux 4C, hein, comment on met le client au centre. Et bien encore une fois, Coca-Cola a fait pour la première fois depuis des dizaines d'années de la croissance sur son marché. En fait, ils étaient dans un marché stagnant, voire régressant. La seule fois où ils ont fait une croissance de leur vente, c'est lorsqu'ils ont personnalisé les bouteilles. Il y avait tout simplement la possibilité d'avoir la bouteille à son propre nom, ou on allait dans une soirée ou n'importe quoi, vous achetiez la bouteille de votre hôte, et là vous étiez capable en fait de créer de l'émotion. Donc en fait l'expérience client à ce moment-là fait la différence. On n'achète plus un Coca, mais on achète un Coca avec le nom de son copain ou son nom à soi, etc. etc. Donc jusque-là, on se dit bon bah ça va à peu près, ça va bien, sauf qu'en fait, on arrive au début de la révolution digitale. En fait, tout simplement, le growth hacking arrive, hein, c'est le titre de mon bouquin. Ce sont les startups en fait qui n'ont rien à perdre, qui arrivent sur le marché. Tout simplement, quand on est un startupper, qu'on a, on va dire, 6 mois à 1 an de cash devant soi, on n'a pas le choix. Il faut réussir ou mourir. Et c'est comme ça en fait que des startups se posent comme véritable alternative dans des marchés que l'on croyait protégés, que l'on croyait vraiment où les clients se croyaient en fait, enfin, les marques se croyaient en fait protégées, parce qu'en fait tout simplement ils sont venus répondre à un besoin et répondre à une attente. En fait, on voit bien que certaines marques avaient des clients un petit peu captifs, des clients qui étaient tout simplement obligés de souscrire à un service. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une start-up est venue là et dit bon, ok, d'accord, là vous êtes obligé de passer par ces trucs, vous n'en êtes pas forcément satisfait, moi je vous propose une expérience qui va être totalement différente, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Et c'est comme ça qu'ont commencé par exemple des marques comme Uber. Ils sont partis du problème du client. Uber, pour la petite histoire, hein, c'était les deux fondateurs qui étaient à Paris pour un salon sur les startups, un événement sur les startups, et ils se retrouvaient un samedi soir à chercher un taxi dans Paris. Et bien entendu, si vous êtes déjà allé un samedi soir à Paris à chercher un taxi, il n'y en a pas. Donc ils se sont dit, ah oh, mais ça serait si génial si les gens en fait, si quelqu'un qui a une voiture pouvait s'improviser chauffeur d'un soir et tout simplement devenir son propre patron et faire le chauffeur de taxi. Pareil pour Airbnb, hein, ils sont partis sur ce même constat. Je veux dire, au départ, les clients, ils veulent pas en fait avoir une chambre d'hôtel. Ce qu'ils veulent en fait, c'est dormir. Ils veulent un lit et éventuellement un petit-déj, que ce soit pas trop cher et que ce soit peut-être un peu plus authentique. Et donc en fait, Airbnb, encore une fois, est reparti du côté du client. On peut également remettre en question totalement un secteur d'activité. On le voit également Tesla. Tesla, en fait, qui a, entre guillemets, créé un constructeur automobile alors que le marché était totalement verrouillé. Tout simplement en proposant une nouvelle offre avec des voitures électriques, des voitures un petit peu plus, entre guillemets, écolo, avec un look et comment dire, une philosophie qui soit totalement différente. C'est également Facebook, hein, qui a pris le dessus sur toutes les chaînes de télévision. Facebook est en train de prendre des parts de marché, puisqu'en fait, tout simplement, les gens, ils veulent pas en fait avoir une, veulent pas qu'on leur impose en fait un programme télé. Ce qu'ils préfèrent, c'est regarder ce qui se passe de plus intéressant. Le loft, c'est bien, mais si on a le loft de ses amis, c'est encore mieux, c'est encore plus fun, parce qu'en plus, on peut participer. En fait, tout simplement, cette philosophie et ce point en fait qui est pris par les startups, c'est se dire est-ce qu'il existe des secteurs d'activité où les clients sont pas forcément très contents de leur fournisseur actuel, du leader actuel, et est-ce que je peux pas leur proposer quelque chose de différent en adaptant en fait justement mon offre à exactement à ce qu'ils veulent. En fait, il faut se dire que désormais, il n'y a plus de clients qu'actifs. On peut plus se permettre de négliger sa relation client parce qu'un jour ou l'autre, il y aura quelqu'un qui va proposer une solution alternative. Je vous ai mis un petit truc humoristique, voilà, avec un taxi qui discute avec un propriétaire d'hôtel, qui lui dit, vous n'êtes pas de client pour moi, non, désolé, les clients se déplacent en autopartage et logent chez l'habitant. Donc en fait, il y a les solutions alternatives, mais il faut également faire attention désormais à ne pas se faire voler sa relation client. C'est le cas par exemple des hôteliers, encore une fois, ils n'ont pas eu de chance parce que non seulement ils ont des nouveaux concurrents qui viennent d'arriver avec Airbnb, mais en plus ils se retrouvent en train d'être rackettés par Booking.com, TripAdvisor, Agoda, parce qu'ils n'ont pas réussi à garder la relation avec leurs clients, à leur envoyer des communications, à envoyer des emailings, etc. etc. C'est désormais Booking, TripAdvisor qui sont devenus les garants en fait de la relation client. C'est eux qui proposent des places de marché, c'est eux en fait que l'on va consulter avant d'aller visiter un pays, avant d'acheter une chambre d'hôtel. Donc en fait ils n'ont pas su garder cette relation-là, ils n'ont pas su la maîtriser et à ce moment-là forcément ils sont pénalisés. On fait un petit bond encore en avant en 2015. On est dans un marché où l'expérience client va devenir de plus en plus importante. Pourquoi? Parce que le prix ne suffit plus. On en a parlé auparavant, le monde s'accélère. Le monde s'accélère de plus en plus vite, il y a toujours plus de concurrence, les attentes des clients changent de plus en plus vite, le client est surinformé, il trouve des informations sur Internet, et surtout en fait, il a une comparaison non plus par rapport à vos concurrents, mais il compare votre offre par rapport au meilleur. C'est-à-dire que lorsqu'il appelle au téléphone, lorsqu'il envoie un email, lorsqu'il utilise un produit, il ne va pas vous comparer par rapport à votre concurrent direct. Il va dire, ok, vous c'est compliqué, parce que moi ce que je vois avec Apple, moi ce que je vois avec la Maïf, moi ce que je vois avec la Massif, moi ce que je vois avec Toyota, moi ce que je vois avec telle marque, c'est beaucoup plus simple. J'aimerais retrouver avec vous, dans ma relation commerciale, ma même simplicité. Je m'attends à ce que vous ayez la même simplicité, la même facilité que les leaders du marché. Et surtout en fait qu'en même temps, on l'a dit précédemment, certes certaines marques se sont différenciées, elles ont pris quelque chose de nouveau, mais sauf qu'on se rend compte que la différenciation type océan bleu n'a qu'un temps. Le marketing doit alors réagir parce que certes vous pouvez proposer un iPhone qui soit avec une expérience client supérieure, avec un design plus sympa. Proposer des vêtements comme des Crocs ou des Uggs qui sont super intéressants où tout le monde se jette dessus, mais très rapidement, vous avez des concurrents qui arrivent et qui proposent quasiment les mêmes fonctionnalités à un prix beaucoup moins élevé. Donc il est essentiel pour les marques d'aller justifier le pourquoi et tout simplement d'aller au-delà du produit, aller au-delà du prix et proposer une expérience client en repensant le parcours client. C'est-à-dire que certes, il y a le client qui va commander le produit, mais il faut que lorsqu'il commande sur Internet ou qu'il a une personne au téléphone, tout se passe bien, tout soit très fluide. Quand on utilise le produit, eh bien, il faut que tout simplement ça fonctionne bien, qu'il soit aidé, qu'il soit accompagné. Le client ne veut plus être frustré. C'est tellement plus simple pour lui de laisser tomber et de passer à autre chose qu'il faut adapter son offre afin d'avoir une fidélité optimale et maximale. Donc il faut repenser son parcours client multicanal. Et pour cela, il n'y a pas de mystère. Il est important de travailler l'expérience client via l'écoute client, donc l'écoute de ses clients, à la fois des enquêtes de satisfaction, à la fois des discussions qualitatives, à la fois de l'analyse sémantique de ce qui se dit sur le web, donc mesurer la satisfaction, mais également travailler au niveau des collaborateurs, puisqu'en fait, ce sont les collaborateurs qui sont en contact direct avec le client, et donc les collaborateurs, ce sont eux qui vont permettre d'avoir ou pas cette expérience client. Donc il faut bien sûr les interroger et leur demander ce qu'ils en pensent. Donc tout cela, tous ces enquêtes vont permettre d'aller nourrir tout simplement des idées pour améliorer l'expérience client, mettre en place des plans d'action, et ensuite ce qui permettra à communiquer encore plus fort via des témoignages, des bonnes pratiques, etc., etc., qui permettront d'entraîner encore plus fortement l'efficacité de l'entreprise vers plus d'amélioration. Je le disais auparavant, aucun secteur n'est à l'abri. Des clients qui ne sont pas insatisfaits peuvent également vous quitter. Et un secteur où les gens ne sont pas typiquement totalement insatisfaits a aussi des soucis à se faire. Je vous ai mis ici l'exemple en fait des banques. Vous connaissez toutes vos banques, hein. Si je vous dis, qu'est-ce que vous pensez de votre relation avec votre banque, vous me direz, la relation, bon, ça va, hein. Mon conseiller est là, je reçois mon relevé bancaire, je mets mon application mobile, bon, voilà, ça va. Les gens sont pas mécontents de leur banque, et pourtant, on voit en fait des taux de croissance complètement ahurissant sur des nouvelles offres de banque. Par exemple, vous avez Revolut et N26, et bientôt vous aurez Alipay et dans le domaine de l'entreprise Stripe. Ce sont des entreprises qui viennent totalement prendre des parts de marché à ces sociétés traditionnelles en proposant une nouvelle expérience. Par exemple, Revolut, tout se fait directement depuis une mobile. Vous avez un numéro de carte de crédit physique ou vous avez en fait une carte virtuelle, vous avez en fait un journal de vos dépenses, etc., etc. Ils ont repensé l'expérience client en disant non, mais les gens ils consultent plus leur banque sur Internet, ils regardent plutôt leur banque sur le téléphone, ils veulent pouvoir avoir les informations depuis leur téléphone. Bref, on repense totalement l'expérience client. Et même si, alors que les clients des banques ne sont pas totalement insatisfaits, mais on n'est pas vraiment dans leur demande. Voilà. Donc il faut plus rester statique. Il faut pas se dire, tiens, les clients ils se plaignent pas, donc tout va bien. Non, si les clients se plaignent pas, c'est qu'au contraire, il faut peut-être aller chercher pour voir ce qu'on pourrait encore améliorer et faire plus. On arrive maintenant à l'époque de maintenant, 2018. 2018, c'est une époque où on arrive vraiment dans une digitalisation extrême de nos économies. Vous n'appelez plus au téléphone avec un réseau analogique, vous appelez au téléphone avec un réseau digital, vous envoyez des SMS, vous envoyez des emails, vous n'avez quasiment plus d'analogique dans notre monde réel, hein. À la rigueur des courriers papier, et encore, les courriers papier peuvent être scannés et ensuite être interprété. Vous avez la voix, certes, au téléphone, mais maintenant la voix peut être retranscrite sous forme de texte et finalement une parole. Comme je vous parle ici, peut être transformé en digital, en numérique, en matière digitale, pour être analysé derrière. Donc on voit qu'il y a vraiment une prédominance de cette nouvelle plateforme. Il y a 18 millions de textos qui sont échangés à chaque minute sur Internet. Il y a eu près d'un million de personnes qui se sont loguées. Il y a eu près de 3 millions de personnes qui sont allées sur Google. Il y a eu presque 1 million de dollars qui ont été dépensés en ligne, etc., etc. Donc en fait, le monde et les relations se sont digitalisés. Donc le but du marketing est cette fois de prendre en compte cette digitalisation. Le marketing évolue encore une fois pour utiliser ces nouveaux canaux de communication. Et donc là, je vous pose une petite question. À votre avis, combien y a-t-il d'outils marketing, c'est-à-dire des logiciels hein, principalement, pour vendre, communiquer ou faire des promotions? Alors, je vous laisse réfléchir à votre avis. Combien de logiciels existent hein? Alors, bien sûr, on n'ira pas dans les micro-logiciels, mais dans les plus connus. Combien y en a-t-il qui existent? Je vous laisse réfléchir. Le nombre est quand même assez important. Ce n'est pas 10, hein, ce n'est pas 20. Alors, la réponse est simple. En 2011, il y avait à peu près 150 outils marketing. En 2012, il y en avait 350. En 2014, il y en avait 1000. En 2015, il y en avait 2000. En 2016, il y en avait 3500. Et en 2018, il y en a près de 6829. Donc, on est passé en l'espace de, allez, 7 ans, de 150 outils marketing à plus de 6829 outils. Le problème actuellement des marketeurs, c'est pas de savoir de lancer des opérations marketing. Le problème du marketing actuel, c'est de savoir lancer la bonne communication sur le bon channel avec les bons outils et au bon moment. Le but, en fait, c'est plus un problème de rareté, c'est un problème de choix, de réflexion, de savoir qu'est-ce qui va être véritablement le plus efficace pour me permettre d'atteindre les objectifs. Et c'est ça en fait le gros casse-tête du marketing. Il y a tellement d'outils à notre disposition qu'il faut savoir quoi prioriser. C'est pour ça que les métiers en fait du marketing se sont radicalement changés. Il y a, on va dire, allez, 10 ans de ça, une personne pouvait faire du marketing de A à Z. Elle pouvait faire de la com, du marketing papier, elle pouvait faire du web. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus dur. Les métiers se sont hyper spécialisés. Il y a de nouveaux métiers qui sont arrivés. Si vous me dites, tiens, Fred, fais-moi des campagnes Google AdWords ou des campagnes Facebook Ads, ben, je vous dirais, je peux le faire, mais je ne le ferai pas très bien. Le content marketing, créer du contenu sur des blogs, sur YouTube, etc., c'est un autre métier. Faire de la PAO, c'est un autre métier. Organiser des salons, c'est un autre métier. Il y a tellement de spécificités, tellement de métiers que maintenant, en fait, les gens se spécialisent de plus en plus. On n'est plus marketeur, on n'est plus une personne qui fait des marketing de manière générale. On est spécialiste en marketing digital, on est marketing communication, marketing traditionnel, etc., etc. Les métiers sont devenus très 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 pointu et très spécialisé. Je me fais maintenant, pour quasiment terminer cette présentation, un peu de prospective pour vous dire bah, qu'est-ce qui va arriver dans le futur au niveau du marketing. Et bien, tout simplement, le marketing va continuer à évoluer et à faire ses révolutions, en particulier avec la révolution industrielle des services. En effet, vous savez comme moi, hein, il y a eu la révolution industrielle dans les industries, on a amélioré la productivité dans les usines, on a mis de la robotisation, on a mis des process en place, on a des gens qui sont là pour aller quasiment appuyer que sur un bouton, des choses comme ça. Et bien désormais, cette révolution industrielle arrive également dans le domaine de service. Tout simplement parce qu'on va aller donner aux gens des outils et des moyens d'améliorer leur productivité. Un exemple. Moi actuellement, j'utilise plusieurs dizaines, enfin une petite quinzaine d'outils marketing au quotidien. Il y a, allez, on va dire, il y a 10 ans de ça, j'en utilisais à peine un ou deux. Donc en fait, on a de plus en plus d'outils à notre disposition qui nous permettent de faciliter notre vie. En même temps, vous avez les débuts de l'intelligence artificielle, chatbot, etc., qui viennent en fait aider et accompagner le commercial, la personne du support, le marketing, etc., etc. Donc on arrive véritablement à une intégration de l'intelligence artificielle dans le marketing. En même temps, il y a tout ce qui est gamification. Donc la gamification, vous avez vu un petit peu ce que c'était aujourd'hui, c'est utiliser les leviers du jeu, que ce soit le jeu classique ou le jeu vidéo, dans le marketing. Et vous l'avez vu il y a quelques minutes, hein, si j'ai fait ces petits concours vous incitant à rechercher telle chose en cherchant des chiffres, c'est tout simplement parce que je suis aussi en train d'utiliser ces leviers de gamification pour avoir votre attention. Et ça sera de plus en plus important dans les années à venir, tout simplement parce que les nouvelles générations doivent être motivées, parce qu'en fait elles sont habituées à avoir beaucoup d'informations, beaucoup de fun avec les jeux vidéo, avec la télévision. Mais aussi en fait, on arrive à une limite en fait de tout ce qui est capacité d'attention, capacité de concentration, et on arrive dans un monde où on sera de plus en plus volatile, de plus en plus en fait distrait par des choses, et donc la gamification va devenir essentielle pour inciter les gens à continuer à être beaucoup plus efficaces et concentrés. On arrive également à d'autres révolutions, hein. Là, je vous ai mis que les choses qui vont arriver dans les semaines, mois à venir. La 5G, hein, les assistants vocaux, tout ce qui est le phénomène Diouf, tout ce qui est le big données, big data, toutes les données qui sont sur Internet, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle ou l'épuisement des ressources. Tous ces éléments-là vont impacter la manière dont les entreprises vont fonctionner. Et donc forcément, le marketing qui à chaque fois s'adapte comme un gant à son environnement économique et aux besoins d'entreprise va devoir s'adapter pour répondre à ces différents défis. J'en arrive à la conclusion de cette présentation, hein. Mon objectif lors de cette présentation était de vous montrer l'évolution du marketing avec en exemple souvent la publicité. Je vous l'ai dit tout au début, hein. Au début, nous étions dans une économie de la rareté. Le but en fait c'était d'aller essayer de faire donner envie à un petit pourcent des clients envie d'acheter un produit. Ensuite, on est arrivé dans un marché de masse avec de la publicité où tout simplement on va convaincre d'acheter un produit. Le but, c'est d'écouler un produit, les 4P. Ensuite, on arrive dans une époque du marketing où on crée de l'émotion, on crée de la marque, on essaie d'avoir de la reconnaissance. Et ça, c'est le fameux tigre avec les céréales. Ensuite, ben, on arrive dans le monde un peu plus rationnel, cartésien, où en fait on essaye d'optimiser des choses, et donc c'est la fameuse époque en fait des robots. Et à la fin, on arrive dans le dernier point qui est tout simplement l'adblocking, hein, c'est le consommateur qui en a un petit peu marre de cette société de la consommation et qui essaye de prendre aussi ses distances et qui se rebiffe par rapport à toutes ces techniques pour essayer de lui faire consommer toujours, toujours plus et lui faire prendre du temps. Donc ce qu'il fallait retenir de cette intervention, hein, c'est tout simplement que le marketing, c'est être en phase avec son marché. Être en phase et anticiper les choses pour pas être ubérisé. Donc le marketing doit être là pour guider l'évolution des produits et des services de l'entreprise pour prévoir l'avenir. La deuxième chose que je voulais vous mettre en avant ce matin, c'était qu'il faut savoir se remettre en cause, même si l'on pense que l'on est dans un univers qui est simple, qui est captif et qui pour l'instant bouge peu, ben ça peut bouger très rapidement et très facilement. Et si que quelqu'un, une petite start-up, vienne avec une idée révolutionnaire, une nouvelle manière de consommer un service, de vendre un produit, et ça peut tout simplement mettre à mal toute une industrie. La troisième chose, c'est que vous devez apprendre à vous réinventer pour adapter vos produits et services en vous concentrant sur les besoins du client et ce qu'il attend, et travailler sur l'expérience client. Ça sera certes bien d'automatiser, d'améliorer la productivité, mais c'est essentiel de penser au client, créer du relationnel. Le but, au final, c'est d'écouter le client et le mettre au cœur de l'entreprise. Je vous remercie.